21h passées de quelques secondes sur Radion. Très bonne soirée à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour un nouveau numéro de Wagon Livre consacré ce soir au compte-rendu de la 10e édition de Livres en Vigne qui s'est tenue les 23 et 24 septembre dernier au château du Clos de Vougeot, entre Beaune et Dijon. Livres en Vigne, c'est la première fête du livre au cœur du vignoble bourguignon, un événement littéraire et culturel créé par Evelyne Philippe, qui nous a concocté une très belle 10e édition. Nous consacrerons dans les semaines à venir plusieurs émissions à cette édition pour vous en offrir un aperçu non exhaustif. Sachez d'ailleurs que c'est le philosophe Luc Ferry qui en était le président. Alors on va ouvrir ce numéro de Wagon Livre avec Barbara Constantine, que nous avons rencontrée. Barbara Constantine, qui vient de faire paraître aux éditions Kalman-Levin Petit portrait de très grandes personnes, mais dans un premier temps, nous allons revenir avec elle sur son troisième roman intitulé « Et puis Paulette », disponible aux éditions du Livre de Poche, et je pense qu'il n'est pas superflu de faire connaissance avec elle. Barbara Constantine.
Je m'appelle Barbara Constantine, je suis auteure, j'ai écrit déjà plusieurs romans, dont Et puis Paulette, et dernièrement, des petits portraits de très grandes personnes.
Alors, votre éditeur m'a transmis petits portraits de très grandes personnes, on va en parler. Okay. Mais votre éditeur a eu aussi la gentillesse de me faire parvenir Et puis Paulette, qui était votre quatrième roman, paru en 2013. Et il est disponible en poche, et je l'ai lu avec un immense plaisir, parce que c'est un roman qui revient sur la solidarité, l'entraide. Et ce sont des valeurs, à mon avis, d'une grande actualité.
Absolument.
Et puis la vieillesse, c'est aussi quand même vieillir bien avec cette solidarité entre les générations.
Voilà, ça
c'est
très important. Très important, hein.
Et on retrouve cette thématique dans Petit portrait de très grandes personnes également, d'une certaine manière.
Oui, j'espère. Enfin, bon, après, ce n'est pas la même chose. Ça se passe, les petits portraits, c'est des gens qui vivent dans une maison de retraite. Donc ça, c'est, ils n'ont pas choisi vraiment de partager leur vie avec des jeunes gens.
Mais aurez pu être finalement quelques-uns des personnages âgés.
Absolument.
Que l'on trouve dans... Et puis Paulette, ça aurait pu être par exemple les Sœurs Lumière que vous ayez rencontrées dans un EHPAD. Alors arrêtons-nous d'abord sur Et puis Paulette. On ne dit pas qui est Paulette parce que, évidemment, ça déflore toute l'histoire. Le roman commence... la vie paisible d'un veuf, Ferdinand, 70 ans. Il n'est pas complètement seul puisqu'il a un fils, Roland, qui exploite une auberge. Alors, il est peut-être mal marié avec une Mireille et puis il a deux charmants petits-enfants. Donc c'est Ludo et Petit Lu.
Oui.
Et notre Ferdinand a une voisine âgée également qui ne roule pas sur
si
l'or, en tout cas.
Ils ne sont pas si âgés que ça. Mais, enfin, elle a une soixantaine d'années. Hein, c'est pas...
Et cette pauvre Marceline, bon, elle a beau avoir une maison, mais la toiture de sa maison est très endommagée et elle vit avec deux animaux magnifiques. Il y a sa chienne, Berthe, et puis il y a l'âne Cornelius.
Oui.
Je vous laisse le soin peut-être de parler un petit peu de Marceline et puis de Ferdinand.
Alors, Marceline, c'est quand même une... Elle est à cet endroit-là, mais ce n'est pas son choix. En fait, c'était une concertiste.
Dont la vie a été brisée par un drame terrible.
Exactement. Et donc, qui fait qu'elle se retrouve dans cette maison. C'est un peu un héritage, en fait. Et les animaux qui y sont son héritage de ses enfants. Elle ne peut pas les abandonner, donc elle doit rester. D'ailleurs, elle se renseigne sur la durée de vie d'un âne, etc. Et elle sait qu'elle va être encore là pendant un petit moment.
Alors, sur la durée de vie, c'est intéressant parce que, justement, bon, un chien, un chat,
on sait
12,
à peu près.
12, 15 ans, un chat, ça peut vivre
jusqu'à
20 ans.
24 ans. Hein,
24 ans,
ouais, c'est possible.
Un âne, 40 ans.
Voilà.
Une poule ou une oie, 18 ans. Un corbeau, un demi-siècle.
C'est incroyable. Hein.
Et la carpe, 70 ans.
Ouais.
Alors ça m'a
épaté. Non,
c'est
vrai. Moi aussi, ça m'a épaté. Mais oui,
c'est
étonnant.
Bon, Ferdinand va, sur le conseil de ses deux charmants petits-fils...
Enfin, ce n'est pas un conseil. Ça veut dire que c'est une question qu'il pose. Pourquoi est-ce que ce n'est pas possible d'inviter quelqu'un dont la maison est en train de s'effondrer et qui va se retrouver... sans toi, pourquoi c'est pas possible de l'inviter dans une maison où il y a de la place? Il vit tout seul, sa maison elle est grande. Et il dit non, en fait, c'est pas possible parce que c'est quelqu'un que. C'est une voisine, mais je la connais pas. C'est pas quelqu'un de la famille, on n'invite pas n'importe qui chez soi. Et en fait, c'est Ils ont semé une graine dans son cerveau. Ça veut dire qu'ils passent la nuit à se dire, mais finalement, ils ont peut-être raison, on peut peut-être le faire. Voilà, en fait, c'était un peu le côté, le petit grain de sable qui fait qu'on commence à penser différemment. Les enfants ont posé cette question.
Et vous posez un regard très émouvant et affectueux, alors sur les personnes âgées, mais aussi sur les plus jeunes. Bon, il y a Muriel, cette jeune femme qui cherche un logement, qui a des petits tracas financiers, qui fait des petits extras au restaurant, je crois, de Mireille et de
Gérard.
C'est Gérard.
Ouais.
Et il y a aussi ses sœurs Lumière. Alors, ce sont ces deux vieilles filles.
Ben non, ça veut dire il y en a une qui était mariée. Mais elle a été mariée qu'une journée. Enfin, son mari est parti, reparti à la guerre. Et en fait, il est mort.
Alors, ce n'est pas les frères Lumière. Alors, pourquoi sont-elles les sœurs Lumière?
Non, c'est un pied de nez, évidemment. J'ai travaillé dans le cinéma pendant des années. Non, mais c'était drôle. Elles tiennent un magasin d'électricité et je trouvais ça rigolo, en plus.
Et en plus, on voit la difficulté. Alors, il y en a une qui est en fauteuil roulant. C'est aussi une réflexion sur chacun ne vieillit pas dans de bonnes conditions.
Bien sûr.
Ferdinand, il a plutôt la santé. Il y a un de ses amis qui va devenir veuf.
Ouais.
Enfin, c'est vraiment le déroulé de la vie dans tout ce qu'il y a de plus difficile. On perd les êtres que l'on aime, on vieillit, les choses qui arrivent,
ouais.
Effectivement. Mais il y a l'humour qui vient sauver tout cet ensemble un peu tragique.
Ben, voilà, enfin, c'est ce que j'espère. En tout cas, essayer de sortir de ça, c'est on peut encore rire aussi, on peut quand même sourire en tout cas, et on peut s'aider à rendre la vie plus douce aussi avec de l'amitié, de la solidarité et de l'humour, bien sûr, sur les choses.
Il y a beaucoup de passages extrêmement souriants. J'aime beaucoup le passage où Ferdinand épluche le catalogue de bricolage.
Oui.
Vous avez inventé des tas d'objets. Et puis, il y a Hortense sur son fauteuil roulant, alors qui est transporté sur une charrette, donc pour au moment du déménagement.
La pluie
tombe. Et là, elle essaie de chanter un air célèbre d'une comédie musicale américaine. Et il faut comprendre.
Hein. Oui, oui.
Vous pourriez peut-être nous la chanter.
Oh, non, surtout pas. J'écris, mais je ne chante pas.
Alors, j'ai adoré aussi certaines expressions que l'on trouve dans le roman qui sont inventées, puisque, bien sûr, ces dames âgées, il faut en prendre soin, il faut donner les médicaments aux bonnes heures, enfin, il faut respecter le rythme de ces personnes. Et il y a donc un organivioque. Alors, qu'est-ce qu'organivioque ?
Ça, c'est une idée pour justement essayer de planifier les horaires de chaque chose. Alors, les médicaments, à quelle heure enfin, tout ce qu'ils ont à faire autour de cette Hortense qui est malade. Parce qu'ils prennent des tours pour la garder. Et en fait, voilà. Donc, c'est une organisation. Ils appellent ça l'organivioque parce que c'est... Ils rient d'eux-mêmes aussi. Enfin, ils trouvent ça rigolo de s'appeler des vioques. C'est pas triste, quoi.
Et en fait, pour expliquer sans trop raconter, c'est que la grande ferme de Ferdinand va devenir une sorte de petit centre d'accueil pour toute personne rencontrant des difficultés.
Voilà, c'est un endroit où ils vont cohabiter.
Une communauté, c'est une sorte de création
d'une
communauté.
Si on veut, ouais. Mais tout le monde est indépendant, chacun a sa chambre et même un petit salon. Enfin, c'est une grande ferme, il y a eu plusieurs générations qui ont vécu sous le même toit, donc c'était possible de morceler l'endroit. Au point où les jeunes, eux, même ont une aile de la maison différente. Voilà, où ils les invitent à s'installer là, contre quelques heures de travail pour les aider. Quoi.
Et l'ancienne violoncelliste Marceline va venir avec sa chienne, Berthe, avec l'âne Cornelius. Alors l'âne Cornelius, il est formidable parce que lui, à un moment dans le roman, il se retient de péter parce qu'il s'agit d'être discret.
Oui.
Et alors, il a un talent incroyable, c'est qu'il ouvre toutes les barrières.
Ah, voilà. Mais ça,
vous en connaissez ? Vous connaissez
les ânes ? Non, moi, je ne connais pas. Mais je sais que ça peut exister, que les ânes sachent ouvrir des portes. Ça, je me rappelle, petite, qu'il y avait un cheval qui savait ouvrir les portes et que c'était un problème, parce qu'il fallait mettre plusieurs loquets pour l'empêcher de sortir.
À l'instant, à bord de Wagon Livre, c'était Barbara Constantine pour son roman « Et puis Paulette », un roman paru en 2013, mais que je vous recommande en livre de poche. Dans une poignée de minutes après la pause musicale, nous retrouverons Barbara Constantine pour nous parler de son tout dernier ouvrage, toujours aux éditions Kalman-Lévy, et qui s'intitule « Petit portrait de très grandes personnes, ces wagons livres » sur Radio Nous sommes ensemble jusqu'à 22h pour ce compte-rendu de la 10e édition de Livres en Vigne qui s'est tenue les 23 et 24 septembre dernier au château du Clos-du-Jou. Strong and beautiful.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Nous l'avons rencontré le 23 septembre dernier au château du Clos-du-Jou à l'occasion de la 10e édition de Livres en Vigne. C'est Barbara Constantine qui vient de faire paraître aux éditions Kalman-Lévy Petit portrait de très grandes personnes. C'est effectivement un très bel ouvrage émouvant dans lequel Barbara Constantine brosse le portrait de personnes âgées qu'elle a rencontrées à plusieurs occasions dans un EHPAD dans le département de l'Indre, et cela donne un très beau livre que l'on peut se procurer donc en librairie aux éditions Kalman-Lévy. Barbara Constantine pour Petit portrait de très grandes personnes.
En fait, j'ai passé beaucoup de temps avec eux. C'est pas, j'ai j'ai pas reproduit tout ce qu'ils m'ont dit. J'ai essayé, enfin, on reconnaît mon écriture de toute façon, mais quelque part, j'ai essayé de retrouver leur, enfin, j'ai utilisé leurs mots, leurs expressions, et chacun a les siens, et leur humour. C'est ce que j'ai essayé surtout aussi de retranscrire dans ces portraits. Et Cécile Gillet, qui a illustré, les a pris en photo et ensuite elle a travaillé avec des outils numériques. Enfin, elle a donc fait des montages avec des objets de l'époque de chacun ou des choses qui revenaient dans ce qu'ils nous ont raconté. Et j'adorais l'idée que ça soit effectivement aussi par rapport à des personnes âgées d'utiliser des outils aussi modernes. C'était intéressant de les mettre en scène de cette façon-là. Je trouve que c'est, il y a quelque chose, c'est un peu impertinent. Et en même temps, ils étaient ravis parce qu'en fait, ils reconnaissent ce qu'on a cherché à faire. Et ils étaient très contents de le voir. Donc ça, c'était aussi très important.
Alors certaines nous ont quittés ou vous ont quitté avant la sortie du livre.
Oui, aussi, oui.
Et on a donc des portraits de personnes très âgées, mais qui sont des très grandes personnes, justement, alors qui ont commencé pour certaines à travailler à 11 ans, qui ont connu des maisons où il n'y avait pas l'eau courante, où il n'y avait pas l'électricité, où les toilettes étaient des cabanes au fond du jardin. Mais des personnes âgées très dignes qui, à aucun moment, ne se plaignent de leur vie, de leur existence. Au contraire, semblent être satisfaites du sort que la vie leur a offert.
Alors ça, c'est le côté assez étonnant.
Parce c'est la qu'ils dignité, ont vécu... non
ouais, ah, voilà. C'est surtout ça qui se ressort de ces rencontres avec eux. C'était... Ils ont une dignité incroyable parce qu'ils ont vécu des choses. Nous, on vivrait la moitié de ça et on serait... On n'y arriverait pas en plus. Je ne suis pas sûre qu'on y arrive en tout cas. Eux, c'était de la... naturel. C'est comme ça qu'ils avaient... Ils ne se plaignent pas de ça. Mais par contre, ils sont capables de dire... ils disent moins « c'était mieux avant ». Parce qu'ils disent c'est mieux maintenant, par exemple pour il y a des choses plus simples qui rendent la vie plus simple, comme les machines à laver, les choses comme ça. Ça, ils disent ce genre de choses.
En revanche, mais au niveau des valeurs, ils déplorent que, par exemple, Odette dit il y avait beaucoup d'amitié dans le temps.
Oui, c'est vrai.
On n'avait rien, alors on cédait. Maintenant, tout ça, ça n'existe plus. Je ne crois pas que ça reviendra de céder comme on faisait.
Oui, tout à fait. Ça, c'est vrai. Alors, c'est très clairement, ils ont raison. On se pose la question. C'était très naturel de s'entraider. Enfin, j'ai fait un voyage en bateau où on travaillait sur un bateau et on a reçu un appel au secours. Et c'était à 3 jours de route, quoi, enfin en bateau. Et on a dû se détourner pour aller sauver quelqu'un, enfin qui appelait au secours. C'est normal en mer. À la campagne, c'était normal aussi qu'un voisin appelle en disant « j'ai un problème, viens m'aider », même au milieu de la nuit. Les gens le faisaient. Maintenant, c'est un peu différent. Je ne suis pas sûre que ça fonctionnerait de la même façon.
Un de vos gentils pensionnaires... Alors, c'était dans quel département
Ça, c'est dans l'Indre.
Dans l'Indre. Hein. Vous avez rencontré Jean. M, il n'y a jamais le patronyme. Hein, c'est bon. Jean M, lui, dit « Les gens, maintenant, ils ne s'aiment pas comme on s'aimait dans le temps.
Ouais, »
Vous pensez que l'amour était plus fort autrefois ?
Ah, moi, je ne sais pas. Hein, c'est lui qui le dit. C'est vrai que... lui, ce qu'il voulait dire, c'est les gens, s'il y a le moindre problème, ils divorcent. Et ça, c'était dans ce sens-là qu'il m'a raconté ça. Il est resté toute sa vie avec sa femme. Voilà, c'était plus fort. L'amour était plus fort, pense-t-il. Enfin, il a peut-être raison, hein, mais je ne sais pas.
Barbara Constantine, j'aimerais que vous nous parliez d'Irène la reine. Irène qui avait un don, et alors elle était vartopienne. Mais expliquez-nous cette histoire de la taupe étouffée, c'est incroyable cette histoire.
C'est incroyable. Donc j'ai fait des recherches pour savoir si c'était vrai, parce que bon, on peut aussi se dire, oh là là, ils perdent la tête là-dedans, c'est possible. Et en fait, non, ça existe. C'est les gens qui voulaient transmettre un don à leurs bébés, c'était donc souvent la mère qui le faisait, qui choisissait un de ses enfants qui serait. Un guérisseur, ils attrapaient une taupe et ils le mettaient dans un chiffon, ils le mettaient entre les mains des bébés jusqu'à ce qu'ils aient étouffé la taupe. Et ensuite, donc toute la vie, elle aurait le don de soigner avec ses mains.
Oui, c'est très surprenant.
C'est violent, hein, pour
quand
la
taupe. Quand j'ai lu ça, effectivement, je me suis dit, mon Dieu, quelle aventure.
Oui, alors, il y a... ça existe, c'est pas juste elle qui l'a raconté. Enfin, c'est quelque chose qui existe en France, enfin, en tout cas dans cette région-là.
Alors, il y a ceux qui, peut-être, ont raté le coche. Je pense à Jean, qui donc a fait son service militaire en Algérie, à l'époque où c'était les débuts,
c'était
ce qu'on appelait
jeune,
les événements d'Algérie. Bon, il a refusé de s'engager dans l'armée, mais il dit, ouais, bah, j'aurais été en retraite à 45 ans. Si, voilà.
Ouais.
Il y a le certificat d'études. Alors ça aussi, c'est très, très émouvant. C'est Lily qui dit, on était 13 candidats, il n'y en a que deux qui ont décroché le certificat d'études. Ça,
bon,
c'est
elle.
Très émouvant
oui,
quand on pense aujourd'hui à cette démocratisation
presque
insolente et outrancière du baccalauréat. Et son mari était cocassier.
Oui.
C'est quoi un cocassier?
Alors donc, il faisait la tournée des fermes pour récupérer les volailles. Et les œufs aussi, je crois. Et donc, c'était cocassier.
Ouais. Alors, c'est très amusant lorsque Lily vous raconte comment elle a rencontré son mari. Et elle a cette expression, mais je vais vous demander de nous expliquer. Elle dit, moi, j'ai attiré mon mari avec du vinaigre.
Voilà. Oh, c'était... Elle est drôle parce qu'on dirait une petite fille quand elle le raconte, en plus, genre en pouffant de rire. Et on dit, oh là là, j'ai fait un truc terrible. Sa maman lui avait demandé d'aller chercher du vin parce qu'on reçoit les gens, que ce soit un voisin qui passe ou quelqu'un qui vient donner un coup de main. Donc le cocassier passait et il fallait lui donner un verre de vin. Et elle était allée à la cave et elle s'était trompée de tonneau et elle lui avait servi du vinaigre.
Alors bien sûr, on ne va pas tous les passer en revue, mais c'est très émouvant. On imagine ces gens en maison de retraite, peut-être un peu seuls. Ça m'a fait penser, ça m'a rappelé aussi le très beau roman de Valérie Perrin, Les Oubliés du dimanche.
Ah oui, c'est vrai.
Et c'est marrant comme il y a un grand nombre d'artistes, d'écrivains qui se penchent sur la vieillesse.
Alors tant mieux,
la
parce
fin
que
de
c'est
vie.
Vrai que
je pense à Lorraine Fouché aussi, qui part parle de la fin de vie dans son tout dernier roman, Les couleurs de la vie.
Je ne l'ai pas encore lu. Mais oui. Mais c'est vrai que si on s'intéresse à eux, s'il y a beaucoup d'auteurs qui s'intéressent à eux, tant mieux. Malheureusement, en passant du temps là-bas, j'ai remarqué quand même que les visites étaient vraiment très, très... Il y avait peu de gens qui venaient voir leur famille, c'est vrai. Et c'est triste, ça, pour ces gens, vraiment... Le fait que nous, on aille les voir, ça éclairait leur vie. C'était incroyable. Ils étaient heureux de nous voir. Donc, j'imagine s'ils pouvaient voir plus souvent leur famille. Et c'était un peu dans cette optique-là aussi, d'écrire ce livre. Je me suis dit, si ça pouvait donner envie aux gens d'y aller plus souvent, ça serait super. De donner envie à des jeunes gens aussi. Parce que c'est vrai que c'est pas évident. J'ai emmené ma petite fille. Qui a donc rencontré certaines personnes.
Et quel âge a votre petite fille?
Elle a 12 ans, mais elle avait 11 ans quand je l'ai amenée la première fois. Et elle a créé un rapport avec eux. Ils sont absolument ravis de la voir. Ils me demandent de ses nouvelles dès qu'ils ne l'ont pas vue depuis un moment. Et c'est touchant, quoi. Voilà.
Paulette évoque sa mémé. Il y a toute une série d'anecdotes sur sa mémé. On a l'impression qu'elle a martyrisé sa mémé quand elle était enfant. Vous en racontez quelques-unes d'anecdotes autour de la mémé de Paulette, qui doit nous ramener à une autre époque.
En fait, c'est pas grand-chose, mais c'est des souvenirs à elle et qu'elle a un peu honte d'avoir peut-être torturé sa grand-mère en la faisant tomber. Alors,
dans les orties,
exprès,
notamment.
Dans les orties.
D'avoir mis une pelure.
À 95 ans, elle est encore avec la main sur la bouche en disant « Oh là là, j'ai fait des choses terribles, je l'avais fait tomber, je n'avais pas fait exprès. » Enfin, comme si elle revivait le moment en se disant « Oh là là, j'ai fait tomber ma grand-mère. »
Et c'est très émouvant,
ouais,
en fin de compte.
Touchant,
c'est triste, on a presque une petite larme à l'œil quand on lit certains des témoignages de
alors,
vos grandes,
comme ça,
très grandes personnes.
Alors, puisqu'on parle de cette Paulette, elle est magnifique parce que elle a dit à quelqu'un qui s'occupait avec moi autour de ce livre que c'est incroyable, à 95 ans, il avait fallu qu'elle attende 95 ans pour devenir une star. Parce qu'en fait, elle était dans un livre avec sa photo et elle trouvait ça incroyable. Et c'était, ça aussi, c'était touchant parce que c'est incroyable, quoi. Ouais.
à l'extrême fin de votre livre, dont je rappelle le titre, hein, Petit portrait de très grandes personnes, c'est chez Kalman Levy. Vous écrivez, c'est page 170, qu'il faut imaginer des alternatives, d'autres façons de vivre, de s'accompagner, de cohabiter entre les générations, gagner un peu d'humanité, de solidarité et d'amour. C'est, à mon avis, une règle de vie qu'il faut essayer de mettre en pratique.
Alors, vous avez utilisé « il faut » et je ne suis jamais dans l'injonction, donc je n'ai pas pu écrire «
il faut ». Il conviendrait
de... Ce serait bien, voilà, ce serait bien sûrement. D'essayer de faire mieux, bien sûr. Ouais. Si on pouvait un petit peu améliorer les choses, ça changerait la vie de beaucoup de gens, bien sûr.
Petit portrait de très grandes personnes, c'est le titre du dernier ouvrage de Barbara Constantine que vous avez à l'instant pu entendre dans Wagon Livre sur Radion. L'ouvrage est disponible en librairie aux éditions Kahneman Levy. On se retrouve, si vous le voulez bien, dans une poignée de minutes pour la suite de ce compte-rendu de la 10e édition de Livre en Vigne. C'était les 23 et 24 septembre dernier. Bonne soirée à toutes et à tous. C'est votre émission littéraire sur Radion et nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Your eyes kill me on sight. Your touch paralyzes me. And I can feel my body. I can feel my body anymore. Travels in my veins so fast. I feel my heart beating, exploding. I'm out of my mind.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
C'est une habituée et fidèle de Livre en Vigne, Lorraine Fouché, qui vient de faire paraître Les couleurs de la vie. C'est aux éditions Héloïse d'Ormesson. Et vous allez avoir l'opportunité d'en découvrir les facettes, la richesse et les émotions que contient ce dernier roman de Lorraine Fouché, Les couleurs de la vie. Lorraine Fouché.
Je voulais appeler ce livre, en fait, La vie vaut son pesant de cacahuètes. C'est ce que ma grand-mère, dans ma vraie vie à moi, disait, et ce que dit Gilonne, l'une des héroïnes du livre. Et puis Héloïse d'Ormesson, ma délicieuse éditrice, m'a dit, ça n'est pas très littéraire. Donc il ne s'appelle pas La vie vaut son pesant de cacahuètes, mais c'est ça qu'il veut dire. La vie, quel que soit notre âge, de quelque génération que nous soyons, vaut la peine.
Alors, votre papa avait une formule, la vie...
Ah oui, la vie est trop courte pour être petite.
Et c'est un peu ce qui illustre chacun de vos personnages dans vos romans.
C'est vrai, peut-être est-ce parce que j'ai été médecin d'urgence et que donc j'ai été confrontée à la naissance et la mort. Et je pense que dans le temps qui nous est imparti, ben, la chose la plus importante, c'est de rêver, de concrétiser, de faire, de ne jamais regretter ce qu'on n'a pas fait. Donc il faut y aller. Il faut aimer ce qu'on fait. Et moi, c'est lire et écrire. Et puis boire du vin, et ici, je suis bien servie.
L'héroïne principale des couleurs de la vie, je dirais qu'il y en a deux. Il y a Kim, donc cette jeune femme donc, qui va quitter un certain temps. C'est pas un bar PMU, non, c'est une maison de la presse.
Maison de la presse à l'île de Groix. C'est une groisillonne qui... Pour savoir si la vie vaut la peine, on ne va pas tout leur raconter, mais parce qu'elle doute, elle va partir pour un mois s'occuper d'une personne âgée dans le Midi. Donc elle n'est jamais sortie de Bretagne. Elle découvre la Côte d'Azur et elle part voir ben, si ça vaut la peine de vieillir ou pas. Et elle va avoir des surprises.
Et elle rencontre donc une dame âgée qui s'appelle Gilonne de Kerjean, qui a un fils. Mais il y a toute une enquête.
Il y a toute une enquête parce qu'elle est... engagée, Kim, par le fils unique aimant et attentionné de cette personne âgée. Comme il y a de nos jours, souvent, la famille d'une senior engage quelqu'un pour s'occuper d'elle. Et au bout d'une semaine, on peut le raconter, on va le raconter
Il faut essayer de mettre un petit peu les éléments en place.
Voilà. Oui. Il y a une très jolie scène où elle est dans l'appartement. Il y a un coup de fil d'une amie d'enfance de Gilonne qui demande à lui parler. Elle, poliment, dit que madame et son fils sont en train de déjeuner et vont remonter. Et là, il y a un silence. Et la dame au téléphone dit « Mais ça n'est pas possible parce que son fils est mort il y a 2 ans. » Et toute la question pour Kim va être « Est-ce que c'est la dame au téléphone qui dit n'importe quoi ou qui n'a plus toute sa tête ?» Ou est-ce que ce fils unique tellement sympathique est un imposteur? Et dans ce cas-là, faut-il le démasquer? Mais Gilonne n'a que lui. Voilà, donc il y a un mystère.
Alors pour comprendre le titre « Les couleurs de la vie », c'est que Gilonne, cette dame âgée, a repeint la vie de Jean Côme en couleurs.
Elle met des couleurs dans la vie de ces deux personnes, donc... Côme a une 40aine d'années, Kim, l'héroïne, a 26 ans, et Gilonne, bien qu'âgée, vulnérable, qui a des problèmes de mémoire, qui de temps en temps ne sait plus où elle en est, mais elle a une force de vie tellement intense qu'elle leur met, en effet, elle prend la palette et puis elle y va avec son pinceau d'émotions, de rire, de larmes et de surprises.
Dites-nous, Lorraine Fouché, qui a repeint en couleur votre vie? Peut-être y a-t-il plusieurs personnes.
Alors oui, c'est drôle parce que ça fait 6 mois que je parle de ce livre et c'est la première fois qu'on me pose cette très jolie question. L'amour certainement, évidemment. L'amour, mon père a mis des couleurs dans ma vie quand j'étais jeune. Il est parti trop tôt à 17 ans, donc Christian Fouché qui était un proche du général de Gaulle. Et puis je dirais que depuis 18 livres, donc depuis 25 ans, les lecteurs et mes éditeurs successifs ont vraiment mis des couleurs dans ma vie. C'est-à-dire que avant j'étais médecin d'urgence, je soignais. On ne sauve pas des vies tous les jours, on adorerait, mais on n'a pas l'occasion et puis ça ne marche pas toujours. L'année de mes 40 ans, j'ai rédigé le certificat de décès d'une grande dame de la littérature, qui était Marguerite Duras. Je suis arrivée après, elle n'était plus là. Mais quand j'étais auprès d'elle en train de rédiger donc ce certificat, je me suis dit... Elle est allée toute sa vie au bout de ses choix et moi j'aimerais ne faire qu'écrire. Et je crois que chaque livre, chaque rencontre, ce matin nous étions là dans ce lieu magnifique avec le soleil, les vignes. Et puis je vois des lecteurs me disant « J'ai beaucoup aimé Entre ciel et loup » qui était mon livre de l'année dernière, que ces lectrices, j'ai plutôt des lectrices, avaient pris ici. Et là ça me met des couleurs dans la vie parce que ben, ça veut dire que que l'aventure des livres continue. Ça n'est pas tellement... C'est pas qu'on écrit mieux ou moins bien, c'est que de temps en temps, ce 17e roman a trouvé ses lecteurs. Et du coup, Les couleurs de la vie a continué la magie cette année. C'est-à-dire qu'il a trouvé ses lecteurs et que peut-être parler de cette petite île bretonne et parler de tendresse et oser le bonheur de nos jours où on a peur de se prendre une bombe chaque fois qu'on prend le métro, bah, ça change et c'est bon pour la santé.
Alors Lorraine, vous parlez du bonheur et du paradis. En tout cas, l'île de Groix, c'est un petit morceau de paradis sur Terre, un petit morceau de paradis dans votre vie, dans votre âme et dans votre cœur.
C'est vrai. Alors ça n'est pas Shangri-La, ça n'est pas extraordinaire et ça n'est pas facile. C'est une petite île où il fait très beau l'été, mais qui est balayée par le vent et les tempêtes l'hiver. La vie n'est pas facile, ni pour les commerçants, ni pour les gens du tourisme, parce que c'est 4 mois. Le reste du temps, dans le temps, la vie était très rude. Il y avait les thoniers, les marins qui partaient. Beaucoup de marins ont péri en mer. Les femmes qui restaient s'occupaient, travaillaient la terre, s'occupaient des enfants. La vie était rude, elle l'est toujours. Mais il y a une solidarité, il y a une force. C'est vraiment quelque chose. On n'est pas voisins parce qu'on se croise. Non, non, on s'aide, on se parle, on vit les uns à côté des autres, et c'est un petit caillou comme ça planté au milieu de la mer.
Alors, petit caillou de 8 km sur 4, donc c'est dans le Morbihan, hein, c'est une île qui se trouve en face de l'Orient. Et en plus, c'est géologiquement, c'est extraordinaire, Lorraine. Parce que,
expliquez-nous. C'est un bout du fond de l'océan qui est monté, et donc il y a un sol qui a du micaschiste, des amphibolites et des glaucophanes. Ça veut dire qu'il y a une plage qui est la plage des Sables Rouges où on a l'impression que les cailloux sont rouges. Il y a d'autres endroits, vous avez l'impression de marcher sur des étoiles qui scintillent. On n'a absolument pas le droit de ramasser les pierres et de les emporter à l'extérieur. Toute l'île est une réserve géologique et c'est très très beau.
Alors quelle érudition, Lorraine. Alors, il faut peut-être nous expliquer, parce qu'il y a une sorte de patois, je ne sais pas si c'est
oh
du patois, non,
mon non Dieu.
C'est pas un patois, c'est
un... C'est une langue groisillonne. Et moi, la première fois, j'ai fait une gaffe. Quand je suis arrivée ici, là-bas, il y a une vingtaine d'années, j'ai dit, mais alors, vous parlez tous breton. Et alors, j'ai une amie... Alors, vous savez, ici, on dit, quelquefois, les garçons disent « mon vieux » ou « mon pote ». Les femmes disent rarement « mon vieux ». Mais là-bas, quand on veut être gentil avec vous, on dit « co ». Comment vas-tu, co ? Et « co », ça veut dire « complice », »,« camarade », »,« ami ». Et là, on m'a dit « mais co, pourquoi veux-tu que je parle breton ? Je parle groisillon ». Eh bien, co, on parle groisillon.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire être chicheté ?
Ah, alors chicheté, je crois que c'est un peu... Ça, on dit aussi prendre une fière bedazée.
Une bedazée, une c'est bedazée. Dans votre roman d'ailleurs.
Oui, oui, tout à fait. Eh bien, ça veut dire en avoir une bonne, avoir exagéré sur la bibine. Quand j'étais médecin, il y avait un joli terme médical, pour ne pas dire devant un patient, il est complètement bourré, on disait ce patient souffre d'une exogénose. Eh bien, être chicheté, ça veut dire avoir une exogénose.
Puisqu'on est dans le registre de la boisson et que nous sommes dans la cour du château du Clos de Vougeot, donc entre Beaune et Dijon, page 62 dans votre roman Les couleurs de la vie, Lorraine Fouché, vous écrivez « Le champagne est un remède miracle pour vivre vieux ». Alors je sais aussi que vous avez écrit « Couleur champagne » il y a quelques années. Là, vous reveniez sur un de vos ancêtres, Eugène Mercier, du côté de votre maman, là, qui a démocratisé le champagne.
Voilà, tout à fait. C'est un petit garçon En 1850, il a eu l'idée, le premier, de fonder une maison de champagne qui soit pour tout le monde, parce qu'avant lui, le champagne se vendait discrètement, on en vendait peu et uniquement pour l'exportation, pour le tsar ou les cours anglaises. Et lui, il a dit, le champagne doit être à la portée de tous les ouvriers, de tous les paysans qui marient leurs filles ou on baptise un enfant. Tout le monde doit pouvoir acheter du champagne. Et donc, le champagne Mercier a été le premier champagne populaire. Alors maintenant, Mercier, Mouette et Chandon, Dom Pérignon, ce sont les mêmes maison au départ, avec des millésimes différents, mais c'est vrai que dans tous mes livres, il y a un coup de Bourgogne et puis il y a un coup de champagne Mercier.
Alors, il y a aussi un éloge un peu des rouquins, avec en plus une confrérie des roux.
Heureux. C'est ça. Alors moi, vos auditeurs ne le voient pas, mais je suis rousse. Je suis rousse, alors je fais un petit balayage blond, ce qui triche un peu. Mais quand j'étais petite, on m'appelait Julie, parce qu'il y avait une chanson de l'époque qui était « Fais-moi danser Julie Larousse ». Et on disait « Ah, les rouquins, les rouquins ». Et dans cette histoire, la petite fille, qui aujourd'hui donc est devenue cette dame âgée, Gilonne, quand elle était petite, elle et son frère étaient roux, pas les parents. Et le frère, pour la consoler, lui a dit « Mais moi, je vais fonder la confrérie des roux heureux et les parents n'auront pas le droit d'y aller. Ça sera notre confrérie, je vais t'introniser. » De même que j'ai eu l'honneur d'être intronisée il y a quelques années, chevalier dans la confrérie du Tas de Vin ici, eh bien là, il y a la confrérie des roux heureux. Et Kim, qui arrive donc de son île bretonne et qui est rousse, va être engagée par Gilonne, non pas sur recommandation, puisqu'elle ne s'est jamais occupée de personne, mais parce qu'elle est rousse.
Et puis, puisque vous parlez des roux, et j'ai cru comprendre que vous aviez une affection pour cet écrivain qui a mis en valeur un roux dans son roman, c'est Jules Renard avec Poil de Carotte.
Oui, bien sûr, Poil de Carotte. Et quand j'étais petite, on m'appelait Poil de Carotte aussi, bien sûr. Et je lisais Jules Renard, et il est triste ce livre, mais il est beau.
D'ailleurs, vous avez cette citation de Jules Renard, « Le paradis n'est pas sur la terre, mais il y en a des morceaux. Il y a sur la terre un paradis brisé. » Alors, Groix fait partie de ces petits morceaux de paradis.
Tout à fait, tout à fait. J'adore cette citation. Et c'est vraiment ce que je pense. Entre le verre à moitié plein et le verre à moitié vide, je le vois plein et plutôt de bon Bourgogne, parce que... Voilà, personne ne peut vous rendre heureux. Quelquefois, aimer peut, ou un livre peut vous faire du bien, mais voilà, il faut partager. Et je pense que les lecteurs qui lisent nos livres, les livres leur font du bien parce qu'ils acceptent quelque chose. Ils donnent d'eux-mêmes. C'est un partage, un livre. Moi, je l'ai écrit. Le bateau va sur la mer, et puis le lecteur le prend et le fait sien. Et c'est pour ça que ça fonctionne.
C'est aussi une réflexion sur la vieillesse.
Oui.
Vieillir dans de bonnes conditions, bien entouré. Vous êtes attaché à cela. C'est une thématique qu'on retrouve aussi, par exemple, chez Barbara Constantine, que vous connaissez peut-être.
C'est vrai, bien sûr.
Et puis Valérie Perrin, qui avait parlé des oubliés du dimanche, c'est-à-dire ces personnes âgées qu'on oublie dans les maisons de retraite. Et vous écrivez, c'est page 298 dans Les couleurs de la vie, « Les gens âgés sont des survivants. Ils ont gagné de hautes luttes le droit d'être encore présents. »
C'est vraiment ce que je pense. Moi, j'ai été élevée beaucoup par ma tante, qui est morte un mois avant ses 100 ans. Et j'ai un respect, une admiration pour les gens qui ont vécu d'autres choses comme ça. Et j'aime beaucoup les gens âgés. J'adore les ados et j'adore les gens âgés.
Et puis, vous citez Verlaine. « En route, mauvaise troupe, partez mes enfants perdus. »
On me disait ça quand j'étais petite. Chaque fois que je préparais mes affaires pour aller à l'école, dans la famille de papa, on disait « En route, mauvaise troupe ». Et j'ai découvert, en utilisant cette phrase, et je cherchais d'où c'était venu, et je ne savais pas que c'était Verlaine. Donc voilà, maintenant...
Merci Lorraine, parce que moi aussi, grâce à vous, j'ai un peu gonflé ma culture générale et culture littéraire. Alors, les spécialités de Groix, bon, le Tchoumpot, on en
le
a parlé
Tchoumpot.
L'an dernier.
Absolument, à côté duquel le Kouign-Amann est une salade verte en calories.
La cotriade.
La cotriade, c'est un mélange de poissons qui sont cuits, mélangés. Mais ça ne ressemble pas à une soupe de poissons. C'est quelque chose de... Il faut venir à Groix. Voilà, il y a de la place. Venez. Ne venez pas en juillet-août, auditeurs, mais venez.
Le lard des tonniers et le pâté gangster.
Oui, alors ça se trouve chez Loïc, le beau boucher. Il y a une boucherie à Groix. Et il y a une boucherie qui, comme dans les îles, vous ne pouvez pas y aller en disant « Tiens, j'ai envie de manger un poulet rôti ». Non, il y a un jour pour les poulets rôtis et un jour pour le boudin. Mais tous les jours, il y a du lard des tonniers et du pâté gangster et c'est quelque chose. Pour aller sur la plage avec un bon verre de vin, une tranche de lard ou de pâté gangster, le roi n'est pas mon cousin, comme on dit.
Et puis, il y a un chat magnifique dans ce roman. Il y a toujours des animaux.
Vous parlez du vrai chat ou du faux chat?
Je parle le chat pissaladière.
Ce chat-là. Parce que la grand-mère, on l'appelle
le chat
aussi.
Il y a la grand-mère, le chat qui choisit, on peut le dire. Elle fait un choix terrible, là aussi par rapport à la vieillesse.
Elle fait un choix terrible, elle décide. C'est une femme qui a été infirmière et qui décide de ne pas devenir comme les patients qu'elle a soignés. Et ce qui m'avait frappée, c'est qu'il y a 3 ans, Une infirmière anglaise dans la vraie vie a fait ce choix, on en a pas mal parlé. Alors que c'était une femme qui allait bien, qui n'était pas âgée. Elle avait 74 ans, ce qui n'est vraiment pas vieux. Et voilà, elle a dit « je ne veux pas vieillir ». Et donc là, ce n'est pas du tout un livre là-dessus, mais juste le doute de Kim au départ, c'est que sa grand-mère choisit de ne pas devenir vieille. Et Kim se dit « mais si ma grand-mère, qui avait toute la sagesse du monde et qui est quelqu'un que j'aimais et qui se sentait aimée, si elle a décidé de ne pas vieillir, pourquoi est-ce que je vieillirais ?» Et c'est pour ça qu'elle va se demander si la vie vaut la peine.
C'est le choix qu'avait fait la maman de Noël Châtelet ?
Absolument, absolument.
Et vous, Lorraine, profession de santé à l'origine, devenue romancière, vous feriez ce choix ?
Alors, moi, j'ai 60 ans, donc là, ça me paraît impossible. On va dire, j'ai envie de vivre vieille, en bonne santé, si j'avais une maladie... Si j'avais une maladie incurable et que j'avais très mal, les choses seraient différentes. Alors vous savez que les médecins savent très bien comment finir leur vie. Donc, mais profondément, je crois que j'aime tellement la vie qu'il faudrait vraiment que je n'y tienne plus. Je n'imagine pas, ni intellectuellement, ni dans mon âme actuellement, ne plus aimer la vie. Mais on ne sait jamais.
Est-ce que...
En tout cas, je ne tuerai jamais personne, évidemment. Ça, c'est pas possible.
Lorraine, est-ce que comme les chats, vous avez 9 vies ?
Oui, je suis sûre d'avoir 9 vies. Alors j'espère qu'il m'en reste encore plein. J'en ai peut-être utilisé quelques-unes, mais en tout cas, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai été médecin et puis écrivain maintenant à plein temps. C'est que si je me trompe, si je ne suis pas un chat et que je n'ai qu'une vie, autant en avoir plusieurs dans la seule... qui m'est donné.
Donc le petit chat pissaladière qu'on retrouve dans
J'adore
le roman Les
chats
couleurs de la vie. Et j'aimerais qu'on termine, Lorraine, cet entretien avec la petite pacharate, la petite devinette que vous avez posée à votre père et qui vous a valu une gifle magistrale.
Alors ça n'est pas dans ce livre-là. C'est dans Donc j'ai rendez-vous avec toi, qui est publié chez Héloïse d'Ormesson aussi. Et j'étais toute fière, j'étais revenue de l'école et je lui avais dit « Papa, pourquoi est-ce que le général de Gaulle est une poule ? » Et là, j'aurais dû voir, il mesurait 1m96, il a froncé les sourcils, c'était un ami proche de Charles de Gaulle. J'aurais dû me dire que ça n'allait pas le faire rire. Il m'a regardé et j'ai dit « Papa, parce qu'il Pompidou et qu'il couve de Murville. » Et j'ai reçu un aller-retour énorme, je suis restée comme ça, puis il m'a pris dans ses bras et il m'a dit « Mais on rit pas avec le grand Charles. » Et j'ai compris qu'on ne riait pas, mais elle était drôle, ma blague.
Lorraine, en tout cas, vous faites vôtre ce que vous écrivez dans votre roman « Les couleurs de la vie ». Quand je serai vieille, j'irai au paradis remercier notre Seigneur d'avoir créé le raisin et Eugène Mercier d'avoir été le pionnier du champagne pour tous. Belle conclusion.
C'est belle conclusion. Et puis, je crois que je remercierai aussi notre Seigneur pour les vins, les bons vins et ceux qu'on va goûter ce soir.
Les couleurs de la vie, c'est le titre du dernier roman de Lorraine Fouchet que vous venez d'entendre à l'instant à bord de Wagon Livre, un entretien enregistré au château de Claude Vougeot à l'occasion du 10e anniversaire de Livre en Vigne. C'était les 23 et 24 septembre dernier, une très belle fête culturelle organisée par Evelyne Philippe. On marque un nouveau temps de pause musicale sur Radio Néon. On se retrouve juste après pour la suite de ce compte-rendu. Nous aurons d'ailleurs le plaisir de vous faire découvrir Catherine Guénec, littéraire de formation qui se consacre à l'écriture. Depuis de nombreuses années, elle a notamment publié plusieurs romans, à mentionner notamment La modiste de la reine et le roman de la rose Bertin. Aux éditions Lattès en 2004, on aura l'occasion de parler avec elle des adieux historiques de personnalités célèbres. C'est un ouvrage qu'elle vient de faire paraître. Très bonne soirée à toutes et à tous. C'est Wagon Livre sur Radion et nous sommes ensemble jusqu'à 22h.
Elle m'a souri quand le jour m'a déposé contre son autre, quand elle me dit s'il te plaît laisse-toi aller, on ne vivra plus jamais l'un sans l'autre, et je me perds, je la laisse faire.
défi, je reviens la démasquer. Elle se retient d'essayer. Côte à côte comme les autres, loin des sourires, loin de nos rêves éveillés. Elle fuit la réalité comme les autres. Et je me perds, je la laisse faire. Et je saigne quand elle me serre contre elle. À tort, à raison, je sais qu'elle tient des rêves. Et je saigne quand elle me serre contre elle. À tort, à raison, je saigne quand elle me serre.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Compte rendu ce soir de la 10e édition de Livre en Vigne qui s'est tenue les 23 et 24 septembre dernier au château du Clos de Vougeot. Alors nous poursuivons ce compte rendu non exhaustif, bien sûr, parce que sur la centaine d'auteurs invités, bien évidemment, nous ne pouvons pas vous offrir des reportages avec chacune et chacun d'entre eux. Mais nous avons prêté beaucoup d'intérêt au dernier ouvrage de Catherine Guenec qui a fait paraître Les mots de la fin aux éditions de L'Opportun. Il s'agit de 200 adieux historiques, c'est-à-dire les dernières phrases prononcées par des personnalités d'horizons culturels, littéraires, artistiques, politiques variés. Tout de suite, découvrons le contenu de cet ouvrage, Les mots de la fin, Catherine Guenec.
C'est un petit peu plus de 200 adieux historiques, donc c'est les mots prononcés en partant, en quittant ce monde, de différentes personnalités.
Alors, le point de départ de ce livre, c'est la relecture des confessions de Jean-Jacques Rousseau.
Tout à fait. Je relisais Rousseau qui racontait une petite anecdote. Il a travaillé un temps chez une comtesse, une Thérèse de Versélis. La pauvre était bien malade, donc elle arrive en fin de vie. Rousseau est à son chevet, elle se retourne dans son lit et la pauvre, à un moment, a une petite flatulence et elle s'écrie « Bon, femme qui pète n'est pas morte ». J'ai trouvé que c'était un mot de la fin extraordinaire et puis ça a donné l'idée du livre et on a continué et les autres sont arrivés.
Alors, on cherchant un peu. On va en parcourir quelques-uns avec
volontiers.
Vous, Catherine Guenec. Toulouse-Lautrec.
Oui.
Alors le peintre, lui, il a un mot terrible.
Oui, alors on accorde à Toulouse-Lautrec un autre mot que celui que j'ai trouvé. C'est « Maman, vous, rien que vous » qu'il a réellement prononcé quand il était sur son lit d'agonie, hein, quand il était moribond. Mais il a surtout dit en partant « Le vieux con ». Alors il avait une mère extraordinaire, un père aussi extraordinaire, mais pas dans le bon sens, qui était un monsieur assez épouvantable, pas très aimant. Quand Toulouse-Lautrec meurt, le temps est très orageux et il y a des mouches qui se baladent un petit peu comme ça sur les draps. Et son père s'amuse à les dégommer avec un élastique. Donc Toulouse-Lautrec le voit et à un moment, donc, il croise le regard de son cousin et il lui murmure tout bas « Le vieux con ».
Alors certains ont un ultime mot qui est presque un cri d'animal. C'est le fameux Wawa.
Ah oui, Bernard Grüthuysen, un nom difficile à prononcer. Il n'est pas très connu du grand public. C'est un philosophe, quelqu'un qui a fait des travaux intéressants, des travaux intellectuels, des traductions, qui a introduit Kafka en France. Et il est mort en aboyant. Alors, j'ai cherché et recherché. Très difficile de trouver le pourquoi. Mais je fais un parallèle avec un autre personnage qui lui aussi est décédé il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Christophe de Margerie, qui est décédé dans un accident d'avion.
Accidentellement, oui.
Oui. Et qui, à un moment de sa vie, a été pris en otage, a connu un épisode un petit peu douloureux comme ça, et à un moment, il s'est mis lui aussi à aboyer. Et quand on lui a demandé le pourquoi, il a dit « Vous me traitez comme un chien, j'aboie ».
Alors, il y a des personnes plus proches de nous. Je pense à la disparition d'une star mondiale en 2009, c'est Michael Jackson.
Oui, Michael Jackson. Alors, je ne vous le ferai pas en anglais, mais c'est dans le livre. Il est mort en réclamant du lait. Donnez-moi du lait, donnez-moi encore plus. Alors, ce n'était pas vraiment du lait, c'était du propofol que lui donnait son médecin. Et c'était ce qu'il faisait dormir. Et le pauvre, il en a eu une bonne dose. Il dort pour très longtemps, là, maintenant.
Paul Leotto. Plus connu, là.
Fidèle à lui-même. Philippe Delerme a d'ailleurs réalisé une très jolie biographie qui porte ce titre-là. Leotto est mort en disant « Et maintenant, fichez-moi la paix ».
Foutez-moi la paix, même
Foutez-moi la paix, oui. Foutez-moi la paix.
Foutez-moi la paix. Le roi Henri IV, assassiné en 1610 par le célèbre Ravaillac. Alors lui...
Alors, c'est drôle, enfin, c'est un clin d'œil. Donc, il a été assassiné, comme tout le monde le sait. Et bon, il rassurait son entourage. Et il est mort en chantant presque du Julien Clerc ou du Rodagil en disant « ce n'est rien ».
Catherine Guénec, à l'instant sur Radion, pour « Espèce de savon à culotte » disponible en collection Point Seuil. Et de Catherine Guénec, on rappellera également... Donc, c'est 200 adieux historiques, les mots de la fin, c'est aux éditions de L'Opportun. J'espère que vous avez passé une très bonne soirée en notre compagnie. Je vous donne rendez-vous le 11 octobre prochain pour une deuxième partie du compte-rendu de cette magnifique 10e édition de Livre en Vigne qui s'est tenue donc au château du Clos de Vougeot les 23 et 24 septembre dernier. Je rappelle que toutes les... Référence des ouvrages se trouve sur le site d'archives de Wagon Livre, www.yannickpetit.fr. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Très bonne fin de soirée à l'écoute de Radion. Rendez-vous mercredi prochain. Au revoir à toutes et à tous.